Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un cas d'étude assez fascinant. Une seule source, le magazine d'actualité de la semaine, iWeek.
Bonjour.
À première vue, bon, c'est une collection de nouvelles, ça part un peu dans tous les sens. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en tirant un fil, juste un, celui du Groenland, eh ben, on va voir apparaître des liens complètement inattendus.
Absolument.
Des liens entre la géopolitique dans l'Arctique, la diplomatie sportive et même des enjeux de sécurité très très concrets qui se jouent en ce moment au Maroc.
Oui, et c'est exactement ça la mission qu'on se donne aujourd'hui. C'est de comprendre comment un territoire qui nous semble si lointain, si glacé, est en fait en train de devenir un point de friction majeur.
Un point chaud carrément.
Un vrai point chaud dont les ondes de choc, on va le voir, se propagent jusqu'à la Coupe du Monde de football. Et en même temps, on va regarder comment les autres actualités de la semaine nous racontent en filigrane l'histoire de ce monde où tout est de plus en plus connecté.
Bon, alors, le Groenland, on y va. Pendant des décennies, c'était la périphérie, une immense tache blanche sur les cartes. Mais en lisant iWeek cette semaine, on comprend que cette époque est révolue.
Le magazine parle d'un nœud stratégique du XXIe siècle. La question qui saute aux yeux, c'est pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé si radicalement? Alors, le dossier met le doigt sur une convergence de trois facteurs. D'abord, il y a la géographie. Elle ne change pas, mais son importance, elle, explose.
D'accord.
Le Groenland, c'est la clé du passage maritime entre l'Amérique du Nord, l'Europe et la Russie. Qui contrôle ce passage contrôle une bonne partie des routes du futur, quoi.
Commercial et militaire.
Exactement. Ensuite, le volet militaire. C'est le poste d'observation avancé idéal pour tout ce qui est détection de missiles balistiques.
Ok. Et enfin, le troisième facteur, celui qui met le feu aux poudres, en fait, l'économie. Avec la fonte des glaces, le sous-sol groenlandais devient accessible. Et ce sous-sol est bourré de minerais stratégiques, les fameuses terres rares.
Les terres rares, l'uranium, bref, tout ce dont nos industries de pointe ont un besoin critique.
Oui, ça je vois. Ça c'est la base, ça pose le décor. Mais là où l'article devient vraiment bluffant, ce n'est pas qu'il parle de moderniser une base existante, non. Il évoque un projet d'accord politique pour créer des zones souveraines.
C'est ça.
Sous contrôle direct des États-Unis, là on change complètement d'échelle.
On change complètement de paradigme et c'est le cœur du sujet. Ce concept de souveraineté à géométrie variable. D'un point de vue juridique, c'est un objet assez mal identifié, un peu flou. Mais d'un point de vue stratégique, c'est d'une puissance redoutable. Concrètement, ça permettrait aux États-Unis de mener des opérations militaires, d'installer des systèmes d'écoute, de faire de l'entraînement, tout sans...
Sans demander la permission.
Sans avoir à demander l'autorisation au Danemark, qui est pourtant la puissance souveraine dont dépend le Groenland.
Attendez. Donc si je comprends bien, ce n'est pas une idée sortie de nulle part. L'article dit qu'un modèle similaire existe déjà. Ça change tout.
Oui, et la comparaison est très éclairante. Le magazine nous renvoie au cas de Chypre. Depuis l'indépendance de l'île en 1960, le Royaume-Uni a conservé la souveraineté militaire totale sur deux zones bien précises.
Les bases d'Akrotiri et d'Ekelia.
C'est ça. Ces enclaves, techniquement, elles ne font pas partie de la République de Chypre. Londres y fait ce qu'elle veut sur le plan militaire. C'est un compromis qui dure depuis plus de 60 ans.
Et ça fonctionne.
Ça fonctionne parce que sa finalité est très claire. Elle est purement stratégique. Ce n'est pas une administration coloniale déguisée. Et c'est ce modèle que les Américains regarderaient de très près pour le Groenland. C'est vertigineux. Donc en gros, on parle d'un État dans l'État, mais un État purement militaire. Quelles seraient les implications pour le Danemark et les Groenlandais eux-mêmes? Le dossier est assez direct là-dessus. Pour le Danemark, ce serait un affaiblissement majeur, une perte de souveraineté de fait sur un territoire qui lui appartient.
Bien sûr.
Et pour les Groenlandais, qui ont une très forte volonté d'autonomie, ce serait une marginalisation complète. Ils craignent, et leurs propos sont cités dans l'article, de devenir un simple pion sur l'échiquier arctique.
Leur terre, leur avenir, tout ça deviendrait secondaire.
Exactement. Tout deviendrait secondaire par rapport au grand jeu de puissance qui se déroule au-dessus de leur tête.
Le paradoxe, c'est que cette perte de contrôle se ferait au nom de la sécurité d'un allié. On protège le territoire en lui retirant une partie de ce qu'il définit comme un territoire souverain. C'est une logique assez implacable.
C'est une redéfinition silencieuse de la souveraineté. Elle ne serait plus basée sur des frontières historiques, mais sur une fonction, une utilité stratégique. Et c'est une idée qui fait son chemin.
Et cette tension dans l'Arctique, ce n'est pas juste une histoire de cartes et de militaires. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment cette pression se propage, vraiment comme une onde de choc, pour arriver dans un domaine qu'on n'imaginerait pas du tout.
Le football.
Le football.
Oui, et c'est là qu'on voit un vrai changement de paradigme. Le sport, qu'on a longtemps vu comme une parenthèse apolitique, devient une arme de pression diplomatique de premier plan.
Ce n'est plus juste un symbole.
Non, c'est un levier. Le magazine rapporte que l'Allemagne envisage très sérieusement de boycotter la Coupe du Monde 2026, celle qui est co-organisée par les États-Unis.
Un boycott de l'Allemagne, ce ne serait pas rien. Qui porte cette idée? Est-ce que c'est juste un bruit de couloir ou c'est une menace crédible?
La source est très précise. Elle cite un député conservateur allemand, très influent en matière de défense, qui s'appelle Roderich Kiesewetter. Et ses mots sont très forts.
Ah oui, il déclare, et là je cite, « J'ai du mal à imaginer que des pays européens participent à la Coupe du Monde si Donald Trump mettait à exécution ses menaces concernant le Groenland et déclenchait une guerre commerciale avec l'UE. La connexion est directe, explicite. »
Elle est limpide. On utilise la menace de ne pas participer à la plus grande fête du sport mondial comme un moyen de pression sur un dossier géopolitique majeur.
Et le gouvernement allemand, officiellement, il dit quoi? J'imagine qu'ils ne peuvent pas être aussi directs.
C'est toute la subtilité de la diplomatie, bien sûr. Officiellement, le gouvernement, d'après ce que rapporte IWIC, se réfugie derrière le paravent de l'autonomie du sport.
Classique.
La décision finale appartiendrait donc aux fédérations, la DFB en Allemagne, la FIFA au niveau mondial. Mais, et c'est là que tout se joue, il n'exclut absolument rien. La porte reste grande ouverte.
C'est un exemple parfait de cette politisation des grands événements.
Exactement. Et cette dualité entre la rhétorique agressive et les gestes diplomatiques, c'est vraiment une marque de fabrique.
Justement, pendant que cette tension se joue au sommet, le magazine met en lumière d'autres aspects de la politique étrangère américaine cette semaine qui vont un peu dans les deux sens.
Tout à fait. D'un côté, on a le bâton. L'article revient sur la menace de Donald Trump de rayer l'Iran de la carte si Téhéran était derrière une tentative d'assassinat contre lui.
Une escalade verbale assez dingue.
Oui, c'est une réponse du berger à la bergère à des menaces similaires d'un général iranien, mais ça montre un climat international électrique. Et puis de l'autre côté, il y a la carotte.
D'accord.
Le même magazine annonce la réouverture imminente du passage de Rafah entre Gaza et l'Égypte, qui est une pièce maîtresse d'un plan de trêve porté par les États-Unis. On voit bien ces deux visages parfois contradictoires de la diplomatie d'une superpuissance.
C'est fou de voir ces jeux de pouvoir à l'échelle planétaire. Mais ce que le magazine réussit bien, c'est de nous ramener à des enjeux plus terrestres, tout aussi vitaux, qui se jouent en même temps. Et cette semaine, il nous emmène au Maroc.
Oui, où l'on voit un pays qui jongle sur plusieurs fronts à la fois. La sécurité environnementale, la sécurité physique et même la sécurité de la confiance publique. Oui, et commençons par une nouvelle qui, pour une fois, est excellente. C'est un enjeu de sécurité nationale fondamental, peut-être le plus important de tous.
L'eau.
L'eau. Après des années et des années d'une sécheresse terrible, IWIC rapporte que les réserves des barrages marocains sont en très forte progression.
Ah, enfin ! Les chiffres sont parlants. Le taux de remplissage national est remonté à 48,6%. C'est loin d'être optimal, mais c'est une bouffée d'oxygène immense. Le plus grand barrage du pays, à l'Ouazda, est même à 61%. Pour l'agriculture et l'eau potable, c'est la base de tout en effet. Mais cette même semaine, le Maroc a aussi vécu un moment de très haute tension où, encore une fois, le sport et la politique se sont télescopés. Je parle de la finale de la CAN 2025.
Absolument. La finale s'est jouée à Rabat, entre le Sénégal et le Maroc. Elle s'est terminée dans ce que les journalistes qualifient de chaos.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?
Ce qui ressort de l'article, c'est qu'après un pénalty accordé au Maroc dans les dernières minutes, des supporters sénégalais ont tenté d'envahir le terrain. Il y a eu des jets de projectiles, la situation a été très confuse, très tendue pendant un bon quart d'heure.
D'accord.
Le bilan, au final, c'est 18 supporters sénégalais interpellés.
Au-delà de l'incident lui-même, est-ce que ça a eu des conséquences diplomatiques ? Parce qu'on parle de relations excédentes entre les deux pays ?
C'est une excellente question et l'article montre bien que le danger a été pris très au sérieux au plus haut niveau. Pour éviter que ça ne dégénère, les chefs de gouvernement des deux pays se sont immédiatement saisis du dossier.
Ah oui, quand même. Le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a eu un long entretien téléphonique avec son homologue marocain Aziza Konouch. L'objectif était clair, appeler à l'apaisement et réaffirmer la solidité des liens, donc une désescalade immédiate.
Immédiate. Le roi Mohamed VI a aussi joué un rôle en saluant l'organisation tout en appelant au calme. Donc non, ça ne va probablement pas fragiliser les relations, précisément parce qu'il y a eu 7 interventions politiques pour désamorcer la bombe. Mais ça montre à quel point le sport est un conducteur électrique, quoi.
Il peut créer des liens formidables, mais aussi des courts-circuits très dangereux. C'est une parfaite illustration. Et pour boucler ce tour d'horizon des défis marocains, le magazine pointe 2 autres fronts qui touchent cette fois la confiance des citoyens. D'abord, une alerte financière.
Oui, et elle vient d'une institution qui est un pilier de l'économie marocaine, la Caisse de dépôt et de gestion, la CDG. Elle a dû publier une alerte très sérieuse sur une campagne de fraude massive.
Quel genre de fraude ?
Des escrocs fabriquent de faux relevés de compte pour faire croire à des citoyens qu'une grosse somme d'argent les attend et leur soutirer de l'argent en échange. Au-delà de l'arnaque, c'est une attaque contre l'infrastructure invisible de la confiance.
Bien sûr, si on ne peut plus croire aux documents officiels,
tout le système est fragilisé.
Et le dernier enjeu tout aussi grave, c'est celui de la lutte contre le trafic de drogue.
Là, le chiffre mis en avant par le magazine est tout simplement sidérant. Les autorités marocaines ont saisi plus de 4 millions de comprimés psychotropes en 3 ans.
4 millions ?
4 millions, c'est un chiffre colossal qui donne une idée de l'ampleur du fléau. La police, citée dans l'enquête, indique que ce trafic est principalement alimenté par la contrebande depuis des pays voisins. C'est donc à la fois un problème de santé publique et un problème de sécurité nationale.
C'est énorme.
Au final, quand on prend un peu de recul, l'analyse de ce simple magazine hebdomadaire est incroyablement révélatrice. On voit à quel point le monde est devenu un système où tout se répond. Une discussion très théorique sur la nature de la souveraineté dans un coin de l'Arctique a le potentiel de faire capoter le plus grand événement sportif de la planète. Et pendant ce temps, une nation comme le Maroc doit mener en parallèle des batailles existentielles pour son eau, gérer les retombées d'un match de foot et se battre pour préserver la confiance de ses citoyens. Tout est absolument lié.
Et ça nous amène à la pensée finale, à la question qu'on peut laisser mûrir. L'article sur le Groenland nous parle de ce concept de souveraineté fonctionnelle.
Oui, une souveraineté qui n'est plus définie par l'histoire ou la culture, mais par l'utilité stratégique, l'accès aux ressources. Alors on peut se demander, et si ce modèle, appliqué aujourd'hui à un territoire immense mais peu peuplé, venait à faire école ? Où est-ce que ça s'arrête ?
Exactement. Pourrait-il devenir un jour la nouvelle norme pour gérer d'autres zones d'intérêt mondial ? On pense aux fonds marins qui regorgent de minerais, ou même à l'espace. Alors, qu'est-ce qu'il resterait de notre idée un peu traditionnelle des frontières et de la souveraineté nationale si ce concept venait à s'étendre ? C'est la question qu'on vous laisse.